Euradio Nantes présente Est-Ouest, balle au centre, le grand oral de Génération 112.
Generation 112, EU Radio Nantes.
Bonjour à tous, bienvenue dans cette cinquième émission de la saison 2010-2011 de Est-Ouest, balle au centre. Mardi 9 novembre, comme chaque année à l'automne, la Commission européenne a publié ce qu'on appelle le paquet élargissement, histoire de faire le point sur l'élargissement de l'Union européenne. De l'Islande à la Turquie, en passant par les pays des Balkans occidentaux, ce bulletin de notes annuel de l'Union était attendu avec confiance pour les uns et quelques inquiétudes pour les autres. 15 ans après la fin de la guerre dans les Balkans, chaque pays trace désormais son propre chemin pour rejoindre l'Union européenne. La locomotive croate, bon élève du groupe, est en passe de devenir le 28e État membre de l'Union européenne. Les choses semblent plus compliquées pour ses voisins bosniens ou macédoniens par exemple. Suivant l'exemple du cousin slovène intégré dès 2004, le Graal bleu aux 12 étoiles fait l'objet d'une quête jamais remise en cause. Qu'en est-il de la situation dans chacun des pays des Balkans? Quels sont les obstacles à leur intégration? Qu'en disent les peuples de part et d'autre de la frontière des 27? Ce sont les questions qui rythmeront cette émission que nous avons choisi d'intituler « Balkans et Europe, je t'aime, moi non plus ». Pour parler de cette question, nous avons le grand plaisir de recevoir Jean-Arnaud Dérins, journaliste et historien, rédacteur en chef du Courrier des Balkans et auteur de très nombreux ouvrages sur les Balkans. Jean-Arnaud Dérins, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec moi pour vous interviewer aujourd'hui, Areski Yaïch de Génération 112. Areski, bonjour.
Bonjour.
Alors avant de nous lancer dans le débat, faisons un tout petit point de contexte avec vous, Areski.
Merci Rémi. Effectivement, vous le disiez en introduction, la Commission européenne a publié mardi 9 novembre son paquet élargissement. Concrètement, la Commission a présenté ce jour-là plusieurs documents, une stratégie globale sur l'élargissement, mais aussi des rapports de suivi, des rapports de progrès sur chaque pays candidat et chaque candidat potentiel. Au rang des pays officiellement candidats, l'Islande, la Turquie et la Croatie, et au rang des candidats potentiels, la Bosnie-Herzégovine, la Serbie, le Monténégro, l'Albanie, la Macédoine, ou devrait-on dire l'ancienne République yougoslave de Macédonie, et enfin le Kosovo, ou plutôt, pour respecter les sensibilités, le Kosovo en vertu de la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Vous l'aurez compris, les deux dernières cités posent déjà un premier problème, celui de leur dénomination. Du point de vue des enseignements de ces différents rapports, sur lesquels nous reviendrons avec notre invité, signalons les bons élèves, Croatie, Islande ou encore le Monténégro, qui a fait des progrès notables cette année. A l'inverse, Bosnie, Serbie et Macédoine ont déçu.
Merci Areski. Alors avant de passer en quelque sorte en revue les différents pays, une première question Jean-Arnaud Dérins sur la capacité et la volonté des États membres d'élargir l'Union à de nouveaux membres. On a entendu des critiques dernièrement, notamment du côté de l'Allemagne. Certains souhaiteraient en effet privilégier plutôt l'approfondissement plutôt que l'élargissement. Où en est-on aujourd'hui de ce point de vue-là?
Alors écoutez, sur cette question, je ne suis sûrement pas le mieux placé pour vous répondre. Je crois qu'effectivement, les pays européens sont pris dans une sorte de contradiction. D'une part, il y a leurs engagements, et je rappelle que depuis le sommet européen de 2003 à Thessalonique, il y a une promesse qui a été faite à ce que l'on appelle maintenant les pays des Balkans occidentaux, c'est-à-dire concrètement les pays des Balkans qui ne sont pas encore membres de l'Union, une promesse claire en leur disant qu'ils seraient un jour membres de l'Union. Au-delà de la promesse, il y a aussi la conviction chez tous les membres de l'Union que si l'on fermait cette perspective politique, on s'exposerait à nouveau à de très sérieux problèmes dans la région, puisque cette perspective politique est la seule qui soit présente sur le marché politique pour indiquer une direction dans laquelle ces pays pourraient se diriger. D'un autre côté, effectivement, l'Union européenne n'est toujours certainement pas totalement sortie de sa crise institutionnelle, et elle est toujours surtout frappée par la crise économique mondiale. Dans ce contexte, l'heure n'est assurément pas à l'enthousiasme autour d'un nouvel élargissement. Alors, entre ce que pensent réellement les peuples et ce que disent les gouvernements, on peut développer, on peut avancer des arguments contradictoires. En réalité, c'est vrai qu'on ne sait pas a priori ce que pensent les citoyens des pays membres de l'élargissement. Moi, en tout cas, je ne le sais pas. Je ne sais pas si ça a jamais été véritablement étudié. En tout cas, il y a, c'est évident, chez beaucoup de pays, à commencer par la France, mais c'est également vrai de l'Allemagne ou de quelques autres, une grande frilosité à voir se poursuivre le processus. On est donc dans une sorte de contradiction permanente dès qu'il est question d'élargissement.
Alors, est-ce qu'on peut dire que l'Europe a tiré les leçons des vagues d'adhésion de 2004 et 2007, qui ont été vues comme trop rapides?
Bah, ça, c'est une leçon possible. Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne leçon. En tout cas, c'est effectivement un argument qui est souvent repris. Là encore, je crois qu'il y avait, alors dans le cas de 2004, il y avait clairement une promesse politique qui avait été faite, une promesse politique faite dès les années 90, une promesse politique qui renvoie en réalité à la chute du mur de Berlin. En quelque sorte, cet élargissement de 2004, je dirais que c'est un petit peu l'événement qui vient terminer 14 ans plus tard la guerre froide. 2007, c'est finalement la poursuite du processus de 2004. Il n'y avait pas de raison majeure de tenir à l'écart la Roumanie et la Bulgarie. On s'est donc dit, on y va, on pourra de toute manière intégrer ces pays-là. Dans le même temps, il s'est avéré effectivement qu'il y avait un grand nombre de problèmes qui n'avaient pas été réglés. Et l'intégration n'a pas, comme par un coup de baguette magique, résolu ces problèmes, notamment en termes de consolidation de l'état de droit ou même de capacité administrative des deux pays concernés, la Bulgarie et la Roumanie, qui ont des gros problèmes, qui sont même, je dirais, assez souvent incapables de gérer les contraintes et les possibilités qui s'offrent à eux depuis l'intégration.
Alors, Arès qui le disait tout à l'heure en introduction, en faisant un petit point sur le contexte, la Commission a présenté donc deux types de documents. Le premier document, c'est sur la stratégie globale, et l'autre, c'est sur des rapports de suivi sur chaque pays. Du point de vue de la stratégie globale, quels sont les enseignements majeurs que vous retenez ?
L'enseignement majeur, c'est que la Commission continue à se tromper. Elle continue à se tromper en développant effectivement une approche au cas par cas. Or, il est évident que les problèmes de la région sont des problèmes globaux et que ce qu'attendent tous les pays de la région, c'est une réponse globale. Je ne suis pas là pour plaider en faveur d'une intégration, d'une vague d'intégration de tous les pays concernés. C'est de toute façon pas à l'ordre du jour. Je crois néanmoins qu'au-delà du cas par cas et de l'examen un petit peu tatillon et pointilleux des capacités de tel pays dans tel ou tel domaine, il faudrait indiquer une perspective politique. C'est cela qui permettrait à la fois d'engager véritablement ces pays dans un processus politique et surtout de débloquer les problèmes qui existent encore entre ces pays ou à l'intérieur de chacun d'entre eux. Si l'on fait du cas par cas, et ça on le sait depuis bien longtemps, on condamne la Bosnie-Herzégovine à rester victime de ces divisions, puisque naturellement les citoyens bosniens vont regarder les progrès que font chacun de leur côté, et la Croatie et la Serbie. Il faudrait donc, de manière urgente, essayer de réfléchir à une stratégie globale pour l'ensemble des pays des Balkans occidentaux, avec certainement de nouveaux instruments ad hoc de préadhésion qu'il faudrait inventer. Mais cela, la Commission ne veut toujours pas en entendre parler et continue à délivrer chaque année son carnet de notes, qui est très répétitif, parce que c'est à peu près les mêmes choses tous les ans.
Alors, avant que nous, on fasse du cas par cas, justement, en parlant de chaque pays, un peu un par un, on va d'abord s'intéresser aux réactions de la blogosphère avec vous, Areski Gaïch.
Alors sur la blogosphère européenne et ailleurs, on se pose beaucoup la question suivante. L'Union européenne reste-t-elle séduisante pour les pays candidats à l'adhésion ? La crise de la dette grecque, les attaques spéculatives sur l'euro, les difficiles rodages de la nouvelle diplomatie européenne ont surtout mis en avant les égoïsmes nationaux et la division. Est-ce donc bien le moment de parler d'élargissement ? Sur le Torillon, magazine en ligne des jeunes fédéralistes européens, Valérie Xavier Lenz tente de réfléchir sur la question en commentant l'article publié en septembre dans le Washington Post par Charles Kupchan, professeur américain de relations internationales à Georgetown. Dans cet article, le professeur se demande si l'Union européenne ne va pas s'effondrer avec la montée du nationalisme. Effectivement, si on répond par l'affirmative à cette question, inutile de parler d'élargissement. Enfin, le Torillon revient plutôt sur les idées de Kupchan, souverainisme des dirigeants qui ne prêtent plus guère attention à l'intérêt commun, renationalisation de la politique, etc., pour mieux comprendre les raisons de l'enlisement du projet politique européen. Le constat est clair pour le Torillon, le décalage entre une opinion qui reste très largement dans l'attente envers l'Union européenne et des gouvernements menant une politique nationaliste et eurosceptique, le décalage est massif. L'heure est donc à la gestion des affaires courantes et l'élargissement attendra une nouvelle génération de leaders qui relanceront l'idée européenne. Néanmoins, le contexte économique et politique européen n'a pas encore mis un terme aux négociations d'entrée de la Croatie et de la Turquie ou des candidatures de l'Albanie et du Monténégro. Mais le doute persiste sur la volonté des dirigeants européens de voir l'Europe s'agrandir. Dans le blog anglophone thenewfederalist.eu, Alan Siao se pose des questions sur l'attribution, le 8 novembre dernier, d'un accès libre à la zone Schengen aux citoyens de Bosnie-Herzégovine et d'Albanie, alors que la Turquie, en négociation directe depuis 2005 et candidate depuis 1959, n'a pas encore cette chance. Qu'en pense donc la blogosphère des pays concernés par l'élargissement ? Il faut dire que les sujets européens se concentrent plutôt sur le tourisme et la culture. Certains blogs s'intéressent quand même à l'élargissement, en particulier des blogs turcs-européistes, Mais là, force est de constater que le désenchantement est de mise, malgré les modestes avancées des négociations turques. Sur turkeyblockactive.eu, le ton est plutôt virulent. L'Europe nous a trahis, s'indigne Sem dans une tribune du blog. Il considère que le Conseil européen, Sarkozy et Merkel en particulier, ne semblent pas vouloir encourager la paix dans les relations de la Turquie avec les Chypriotes et les Grecs. Il n'y a pas d'accès aérien et maritime entre la Turquie et ses deux pays membres. Un point qui bloque considérablement les avancées dans les négociations d'adhésion turques. Division et nationalisme donc priment encore sur l'intérêt commun. C'est le sentiment relayé par la blogosphère et par bon nombre de citoyens européens. L'élargissement des valeurs démocratiques et humanistes est au point mort. Là-dessus, tout le monde est malheureusement d'accord.
Merci Areski. Alors, au-delà de la Turquie, hein, qui pose un tout autre problème, commençons notre tour des Balkans par la Croatie. On le disait en introduction, ce pays peut être considéré comme une locomotive pour toute la région. Les négociations d'adhésion débutées en 2005 sont en effet sur la bonne voie. On parle même d'une clôture des négociations pour mi-2011 avec une adhésion pour janvier 2013. Jean-Arnaud Derrins, sur Radio Nantes, que pensez-vous de ce calendrier mi-2011 et 1er janvier 2013 ? Est-ce trop optimiste ?
Dieu vous entende. Dieu vous entende. Ça fait quand même à peu près 5 ans qu'on dit aux Croates que c'est bon l'an prochain. Il serait temps, si l'Europe veut rester sérieuse, que cette adhésion croate se concrétise. Je crois que là, pour le coup, le défi, il est surtout pour l'Europe, parce que cela fait réellement 5 ans que l'on répète aux Croates, c'est bon l'an prochain. Donc il y a un moment où, en ne concrétisant pas cette adhésion croate, l'Union européenne enverrait un signal extrêmement négatif à tous les pays de la région, le signal qu'elle n'est pas sérieuse. Donc intégrer la Croatie, je dirais, c'est quelque chose qui ne se discute même plus sur le plan technique. Les négociations d'adhésion sont presque achevées, donc le plus tôt sera le mieux pour la crédibilité de l'Union européenne elle-même. Et d'autre part, il faut être aussi bien conscient du fait que plus le temps passe, plus l'enthousiasme européen des Croates fléchit. On sait qu'aujourd'hui, l'euroscepticisme, enfin aujourd'hui depuis déjà 3 bonnes années, je dirais, l'euroscepticisme grandit en flèche en Croatie, à la fois à cause de ces retards permanents, de ces reports incessants des négociations, puis de la date d'adhésion. Et du coup, les Croates se disent, au bout du compte, notre pays marche pas si mal que ça. Concrètement, il marche grâce au tourisme. Pour le reste, l'économie croate a été à peu près sabordée au cours des 20 années de transition, mais l'économie du tourisme suffit à tirer le pays, à le faire fonctionner. La Croatie est un petit pays de 4,5 millions d'habitants. Donc du coup, les Croates se disent de plus en plus, mais finalement, à quoi bon l'intégration européenne ? Donc si l'on veut que ce processus d'intégration retrouve un sens et une crédibilité, non seulement auprès de l'opinion croate, mais auprès de l'opinion de tous les pays des Balkans, oui, il faut se dépêcher d'intégrer la Croatie, et j'espère que le calendrier que vous suggérez sera tenu.
Néanmoins, le rapport de suivi cette année pour la Croatie semble positif. En tous les cas, les réactions des dirigeants croates nous incitent à le penser.
Ils sont toujours positifs depuis des années.
Certes, l'année dernière, il y avait un petit peu un bémol, notamment sur la coopération avec le Tribunal pénal international. Et d'ailleurs, le procureur Serge Brammertz avait dit cette même année que la Croatie avait un peu de mal à coopérer pleinement avec ses services, et notamment sur des documents militaires qui manqueraient. Est-ce que vous pensez que c'est encore un point d'achoppement ?
Oui, effectivement. Sur le problème des archives, la Croatie n'a pas encore rempli toutes ses obligations. Mais enfin, arrêtons de raconter des farces qui amusent les gamins à Zagreb. Ce n'est pas pour ça que le dossier croate est bloqué. Le dossier croate a été totalement bloqué pour une toute autre raison, qui était le veto lancé par la Slovénie en raison du micro-conflit frontalier qui oppose les deux pays. Alors, effectivement, depuis la fin de la Yougoslavie et l'accession à l'indépendance des deux républiques, les frontières entre la Slovénie et la Croatie n'étaient pas fixées. Il y avait donc effectivement un problème. Ce qui me semble très grave, c'est la manière dont ce problème est revenu sur le devant de la scène. C'est la Slovénie a choisi à un moment de le mettre en avant, pour des raisons qui tenaient en partie au calendrier politique interne de la Slovénie, mais passons. Mais surtout, à partir du moment où la Slovénie a mis en avant ce problème-là, l'Union européenne a disparu aux abonnés absents en disant c'est un problème bilatéral. Alors comment est-ce que l'Union européenne peut être politiquement crédible quand elle dit qu'elle n'a rien à dire sur un problème bilatéral opposant un de ses États membres et un État officiellement candidat ? Ce n'est juste pas sérieux. Au bout du compte, l'Europe n'a effectivement rien fait sur ce dossier, était totalement absente, et c'est par le biais d'une négociation bilatérale entre les deux premiers ministres, Borut Pahor, le premier ministre slovène, et Jadranka Kosor, la première ministre croate, que le problème a pu être réglé. Désormais, donc, le veto slovène est levé. reste après une série de problèmes, dont celui que vous évoquiez sur les archives du TPI, mais de manière évidente, ce n'est pas cela qui peut sérieusement freiner l'adhésion de la Croatie.
Justement, c'était un petit peu un cas d'école, hein, cette bataille entre la Slovénie et la Croatie. Est-ce que vous pensez que ce problème va se poser de nouveau lorsque la Croatie sera membre et qu'elle aura, elle aussi, à donner son avis sur l'entrée de la Bosnie et de la Serbie, par exemple ?
Ah ben effectivement, pourquoi pas ? Mais ça, c'est le choix, effectivement, du cas par cas. Donc là-dessus, vous avez raison, on n'a pas fini de rigoler.
Ce critère de la coopération avec le TPE est aussi très important en Serbie, qui peine à capturer les derniers inculpés. Doit-on s'inquiéter de ce point de vue-là ?
S'inquiéter de quoi ? Jusqu'à présent, bon, les choses étaient relativement claires au niveau des principes, à savoir que la pleine coopération avec le TPI était une condition impérative pour le processus d'intégration, une condition qui a été posée à la Croatie. Je rappelle que la Croatie était restée totalement bloquée tant qu'elle n'avait pas réussi à arrêter le général Ante Gotovina, qui finalement a été arrêté, si ma mémoire est bonne, à l'automne 2005 en Espagne, aux Canaries. Cette condition valait aussi pour la Serbie. Le problème, c'est qu'est-ce que veut dire une pleine et entière coopération ? Je veux dire, on peut coopérer pleinement sans avoir tous les résultats escomptés. Concrètement, la Serbie peut pleinement coopérer sans être capable d'arrêter Ratko Mladic et Goran Hadjic, les deux derniers fugitifs du TPI, pour différentes raisons. Peut-être parce qu'ils sont à l'étranger, ils ne sont pas en Serbie, peut-être parce qu'ils sont morts. Donc on ne peut pas dire qu'une pleine coopération signifie obligatoirement l'obligation de résultat, à savoir l'arrestation des deux fugitifs. Néanmoins, jusqu'à la semaine dernière, il y avait un consensus pour dire qu'il fallait que la Serbie fasse encore plus pour montrer sa volonté de coopération et pour essayer d'arrêter les deux fugitifs, et que tant que la question n'était pas réglée, cela demeurait un veto, un blocage politique. Le 25 octobre, le Conseil des ministres européens a donné son feu vert politique pour que la Commission examine la candidature de la Serbie, en estimant que la coopération, la volonté de coopération manifestée par Belgrade suffisait, en enlevant donc de fait l'obligation de résultat. Alors, je pense que c'est un choix qui peut tout à fait se défendre, puisque, effectivement, on ne pouvait pas soumettre la Serbie à cette obligation de résultat. Ces conséquences sont néanmoins un petit peu embêtantes parce que cela pourrait amener la Serbie à relâcher beaucoup ses efforts pour essayer d'arrêter Mladic et Hadjic qui, à mon avis, sont probablement sur le territoire serbe toujours aujourd'hui. Mais en même temps, je n'affirme rien. Je pense que personne ne peut avoir, enfin que très très peu de gens savent réellement quelle est la situation. Quand je dis très peu de gens, je pense à quelques personnes à Belgrade, pas plus. On peut donc craindre qu'aujourd'hui la Serbie relâche un petit peu ses efforts. Dans le même temps, ce qu'ont dit les ministres des Affaires étrangères, c'est que cette question sera examinée, sera évoquée à chaque étape du processus d'intégration de la Serbie. Néanmoins, le feu vert politique a été donné le 25 octobre, et malgré le rapport de mardi, il est évident que la Serbie, aujourd'hui, risque de brûler les étapes et d'avancer très vite dans la voie de l'intégration. Les diplomates occidentaux parlent aujourd'hui d'un statut de candidat dès décembre 2011, dans un an, et de négociations d'adhésion qui pourraient être beaucoup plus rapides que pour les autres pays de la région.
Le ton général du rapport sur la Serbie semble plutôt négatif, notamment sur les questions de corruption et de lutte contre la criminalité organisée. Donc, quel est votre avis là-dessus ?
Ce rapport, peu de gens en tiendront compte.
Vous pensez que peu de gens vont prendre en compte ce manque d'effort sur ces questions-là ?
Oui, je le crois.
Pour quelle raison ? Alors que c'est revenu souvent pour les autres pays.
Parce que les critères politiques seront plus importants. Et les critères politiques, ça consiste à penser que la Serbie est le principal pays de la région, à la fois le facteur de la possible stabilisation de la région et en même temps le principal risque d'une potentielle déstabilisation. Et que donc, étant donné ce poids géopolitique de la Serbie, il faut lui accorder une sorte de statut particulier. Là-dessus, il y a un quasi-consensus parmi les diplomates des pays occidentaux. Donc je pense que dans le cas de la Serbie, les choses iront assez vite, en sachant que le vrai problème pour la Serbie, ce n'est pas un problème évoqué dans les rapports de la Commission, c'est le statut du Kosovo. La vraie question, c'est une Serbie que l'on va intégrer avec quelles frontières ? Une Serbie qui inclut ou qui n'inclut pas le Kosovo.
Alors justement, ça c'est un sujet qui n'est pas discuté.
Le Kosovo n'est pas un critère.
Oui, c'est un sujet qui n'est pas discuté, qui n'est pas une condition d'adhésion pour la Serbie.
Et qui est pourtant la vraie condition.
Et qui est pourtant la vraie condition. Mais sachant que les dirigeants serbes indiquent de manière répétée qu'ils ne reconnaîtront sous aucun prétexte le Kosovo. Est-ce que vous pensez que c'est sage et raisonnable de la part de la Commission de ne pas parler de ce problème, cette question Kosovo dans le cadre du processus d'adhésion de la Serbie ?
Alors, la Commission ne peut pas en parler puisque l'Union européenne est divisée sur le sujet. Je rappelle que 5 États membres n'ont toujours pas reconnu l'indépendance du Kosovo et n'envisagent pas du tout de le faire dans un avenir envisageable. Dans ces conditions-là, la Commission ne peut pas parler du Kosovo. Mais il est évident que ne pas parler d'un problème ne le fait pas disparaître. Enfin, ça s'appelle la politique de l'autruche. Voilà, c'est quelque chose en tout cas qui ne peut pas tenir. Et par rapport au Kosovo, on en est bien là du point de vue européen. Encore une fois, c'est la crédibilité politique pourtant de l'Union européenne qui est mise en cause sur le sujet, puisque quoi que l'on puisse penser sur le fond du dossier, il n'est juste pas compréhensible que l'Union européenne ne soit pas capable d'avoir une politique commune sur le sujet.
Quelle va être l'issue selon vous ? Est-ce qu'on va forcer la Serbie à un moment donné à reconnaître le Kosovo ? Qu'est-ce qui va se passer ? Parce que c'est un petit peu flou et personne n'en parle, personne ne débat, personne ne propose quoi que ce soit sur ce sujet.
Alors je ne sais pas ce qui va se passer, je pense qu'on aura sûrement des surprises. Aujourd'hui, la première échéance, c'est la réouverture d'une discussion entre Belgrade et Pristina. La réouverture de ces discussions, c'est, je dirais, une sorte de compromis. Belgrade exigeait l'ouverture de ces discussions. Donc de ce point de vue-là, Belgrade a obtenu gain de cause. En même temps, la décision d'ouvrir ces discussions, qui a été validée par une résolution approuvée par l'Union européenne et adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies, est aussi la conséquence d'un revers politique majeur que Belgrade a essuyé lorsque la Cour internationale de justice a rendu son avis sur la légalité de la proclamation d'indépendance du Kosovo. C'était le 22 juillet dernier. Donc, ouvrir ces négociations, c'est, je dirais, une sorte de compromis en tout cas entre les pays occidentaux qui ont poussé à l'indépendance du Kosovo et qui ont reconnu celle-ci, et la Serbie. Dans ce compromis, le Kosovo lui-même n'intervient pas tellement. On sait qu'a priori, le Kosovo, lui, ne voulait pas de discussion, en disant, voilà, tout a été discuté, nous, on a proclamé notre indépendance, en gros, on n'a plus rien à discuter. Les pays occidentaux vont néanmoins pousser les autorités de Pristina à rentrer dans ce processus de négociation, même si tout de même, on ne sait pas de quoi l'on va discuter, ni quand vont commencer les discussions. Pour l'instant, tout est bloqué puisque des élections anticipées, enfin le gouvernement s'est effondré au Kosovo, et des élections anticipées sont convoquées pour le 12 décembre, ce qui veut dire qu'il n'y aura rien, bien évidemment, avant le 12 décembre, ni même avant la formation du gouvernement. Donc ça nous renvoie fin janvier, février 2011. D'ici là, beaucoup de choses peuvent se passer. Éventuellement, le gouvernement en Serbie pourrait peut-être lui aussi tomber. Du coup, ça nous renverrait carrément au printemps. En réalité, je crois que personne n'a très envie que les discussions commencent rapidement. Ceci étant, elles commenceront bien un jour ou l'autre, et là on verra de quoi l'on va parler. Honnêtement, je n'en sais rien, et je crois que personne ne le sait. Néanmoins, ce processus permettra sûrement de faire avancer une série de dossiers et de normaliser d'une certaine manière les relations entre Belgrade et Pristina, même s'il n'y aura pas, ça c'est évident, dans un avenir envisageable, de reconnaissance mutuelle entre la Serbie et le Kosovo.
Sur les dossiers concernant le Kosovo, justement, donc état de droit, en termes d'état de droit, corruption, progrès économique, le Kosovo est bien derrière tous les autres pays des Balkans, et au-delà des questions de reconnaissance de certains pays européens, des 5 qui n'ont toujours pas reconnu le Kosovo, pensez-vous que le Kosovo pourra un jour remplir tous les critères pour entrer dans l'Union européenne ?
Bah, écoutez, la Bulgarie et la Roumanie sont rentrées sans les remplir, ces critères. Pourquoi est-ce que le Kosovo devrait les remplir ?
Donc c'est plus un souci politique, finalement.
Je le pense. je le pense très sincèrement. Après, oui, je crois qu'effectivement, on ne va pas, si l'on se projette dans un avenir à 5, 10 ou 15 ans, on ne va pas avoir l'ensemble des Balkans intégrés avec juste au milieu une petite tache blanche sur la carte qui serait le Kosovo entouré de barbelés et toujours pas membre de l'Union européenne. Ça, c'est bien évidemment pas envisageable.
Justement, que se passera-t-il dans 10 ans ? On va passer maintenant à notre rubrique sur l'avenir. L'avenir dans 10 ans avec Rémi Pro.
Alors dans 10 ans, nous avons au moins une certitude, c'est que sauf retournement de situation peu probable, la Croatie sera membre à part entière de l'Union européenne, avec ses députés européens et son commissaire européen. Est-ce que d'ici là, elle aura été suivie par un de ses voisins? Il est probable que oui, hein. La Serbie a toutes les cartes en main pour faire partie du club rapidement, à condition de le vouloir vraiment. Le Monténégro, sans se faire remarquer, marque des points et se rapproche des critères. Pour les autres, les incertitudes sont un peu plus grandes, hein. La Bosnie, le Kosovo, l'Albanie, la Macédoine sont à des degrés différents, hein, empêtrés dans de graves difficultés qui compromettent leur adhésion pour l'instant. Mais la question qui se pose aussi est celle de la volonté des pays déjà membres d'accueillir des nouveaux entrants. On en a parlé en début d'émission. De nombreuses voix, et pas seulement en Allemagne, se font entendre contre la poursuite de l'élargissement. Ce serait, à mon avis, une erreur historique. Au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, une poignée de dirigeants politiques ont eu cette vision à long terme qui caractérise les grands. Rendre la guerre impossible en arrimant les anciens ennemis ensemble et jeter ainsi les bases de la réconciliation. La guerre dans les Balkans a laissé, c'est clair, des traces indélébiles et la résurgence des nationalismes de ci, de là devrait nous inquiéter. L'Union européenne a aujourd'hui l'opportunité historique de réappliquer le modèle qui est à son origine, un modèle de paix et de réconciliation. Les pays des Balkans méritent que les hommes politiques européens d'aujourd'hui aient, sur le modèle des pères fondateurs, cette vision d'avenir et de paix. Ne rate-t-on pas cette occasion historique?
Merci Rémi. Jean-Arnaud Derrins, parlons maintenant de la Macédoine, ou plutôt de l'ancienne République yougoslave de Macédoine. Expliquez-nous d'abord cette curieuse spécificité macédonienne.
Quelle spécificité?
Sur le nom, l'ancienne
Écoutez, la Macédoine, je veux dire la République de Macédoine, existe sous ce nom, elle est reconnue sous ce nom par plus de 100 États dans le monde, dont les USA et beaucoup d'autres. Après, il se trouve que cette petite Macédoine a un voisin, la Grèce, qui estime que ce pays ne doit pas s'appeler comme ça. C'est à peu près comme si la Belgique interdisait au Grand-Duché de Luxembourg de s'appeler Luxembourg, parce qu'en Belgique, il y a aussi une province qui s'appelle Luxembourg. C'est du même ordre. Il y a en Grèce une province qui s'appelle Macédoine. Et c'est pour cette raison que la Grèce interdit à la Macédoine d'utiliser, de s'appeler officiellement Macédoine. Donc depuis une quinzaine d'années, depuis 1994 exactement, il y a ce compromis, ce nom provisoire qui est ancienne République yougoslave de Macédoine, qui est utilisé dans une série de cercles internationaux, même si dans ses relations bilatérales, la Macédoine utilise généralement son nom de République de Macédoine. Le problème, là encore, c'est qu'on a affaire à un conflit qui oppose un État membre de l'Union européenne, la Grèce, et un pays qui est officiellement candidat depuis décembre 2005, la Macédoine. Or, sur ce conflit du nom, il y a un acteur qui est totalement absent, c'est encore une fois l'Union européenne. Il y a une commission des Nations unies chargée de mener les négociations sur le nom. Cette commission est dirigée par un diplomate américain. L'Europe est totalement aux abonnés absents sur un conflit qui se passe au cœur de son territoire et entre un État membre et un pays candidat. Alors sur ce conflit, je suis ensuite très 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 modérément optimiste, étant donné que les négociations n'avance pas du tout, s'enlise depuis des années. Alors il y a des propositions qui sortent tous les 6 mois du chapeau, Macédoine du Nord, Macédoine du Vardar, pour trouver un nom de compromis. Immédiatement, il y a une surenchère des deux côtés, d'ailleurs du côté grec, mais aussi du côté macédonien, pour introduire des clauses restrictives ou des considérations supplémentaires. On ne peut donc pas a priori imaginer que le conflit sera rapidement résolu.
Oui, effectivement, ça fait quand même 5 ans que la République de Macédoine, donc appelons-la comme ça, n'a pas débuté les négociations alors qu'elle a le statut de candidat. Mais au-delà de cette question du nom qui est assez complexe, on a du mal à voir quelle peut être la porte de sortie. Au-delà de cette question du nom, comment vous jugez la situation de la Macédoine, la situation politique, économique?
Mais écoutez, la Macédoine est dans une situation assez critique. Depuis 2006, c'est le parti de droite, le VMRO de PMNE qui est au pouvoir. Et ce parti avait fait campagne sur 2 thèmes. L'intégration euro-atlantique d'une part et le développement économique basé sur l'arrivée d'investisseurs étrangers. L'intégration euro-atlantique, ben, on a vu qu'elle est bloquée. La Macédoine notamment s'est fait claquer au nez les portes de l'OTAN lors de l'avant-dernier sommet de l'Alliance Atlantique. Du côté européen, tout est en stand-by, en partie à cause du conflit non résolu avec la Grèce. Et puis sur le second aspect, celui du développement économique, le compte n'y est pas non plus. Les investisseurs étrangers n'arrivent pas en Macédoine, il y a donc là aussi un échec. Dans ces conditions, le gouvernement VMRO de PMNE du Premier ministre Nicolas Gruevski joue une seule carte qui est la surenchère nationaliste, alors qui passe par le biais de gestes qui apparaissent forcément comme des provocations évidentes aux yeux des Grecs. Ces provocations, c'est baptiser l'aéroport, les autoroutes, les places, tout ce que vous voulez du nom des héros de la Macédoine antique, Alexandre le Grand et Philippe de Macédoine, de couvrir le centre-ville des statues, de statues assez kitsch et grandiloquentes. C'est une provocation par rapport à la Grèce. Cela ne va pas résoudre les problèmes économiques et sociaux du pays. Et je crois même que ça n'abuse pas beaucoup l'opinion publique intérieure, qui est plutôt, disons, au mieux amusée, au pire, tout à fait énervée par cette politique symbolique un petit peu débridée. Et en tout cas, il est évident que la Macédoine est un pays qui fait du surplace dans tous les domaines politiques, économiques, sociaux, et qui risque donc d'être à nouveau confronté à de sérieux problèmes, d'autant que la Macédoine est un pays multiculturel, multinational, mais où existe, où vit une importante minorité albanaise qui participe au gouvernement, mais qui participe au gouvernement sur le mode d'un partage du pouvoir, pas d'une véritable co-gestion ou gestion commune du pays. Donc la Macédoine est effectivement dans une situation qui peut à tout moment redevenir très critique.
On va continuer à dérouler un petit peu la liste des pays candidats. En parlant maintenant de l'Albanie et du Monténégro, assez brièvement sur la situation, puisque le rapport sur ces deux pays a été jugé plutôt positif. Quel est votre avis ?
Oui et non. Oui et non. L'Albanie, par exemple, l'Albanie espérait obtenir deux choses. La libéralisation des visas, ça s'est obtenu en même temps que la Bosnie-Herzégovine. Elle espérait aussi obtenir le statut de candidat. Or ça, seul le Monténégro l'a obtenu, pas l'Albanie. Il faut quand même rappeler que l'Albanie est en crise politique grave depuis près de 18 mois. Depuis les élections du 28 juin 2009, il y a un an et demi, l'opposition boycotte régulièrement le Parlement. Il n'y a aucun compromis qui semble envisageable entre le gouvernement de droite du Premier ministre Sali Berisha et l'opposition socialiste. C'est donc une situation de crise qui est un petit peu gênante tout de même. Donc l'Albanie, pour le reste, connaît des progrès économiques réels. C'est un pays qui part de très bas et qui est en train de se reconstruire, je dirais. C'est un pays extrêmement dynamique, probablement le pays le plus dynamique de la région. Mais ceci étant, la situation, malgré ce pas important que représente la libéralisation des visas, la situation n'est tout de même pas tout à fait enthousiasmante. Dans le cas du Monténégro, là, les choses sont un petit peu contradictoires. Alors, le Monténégro a obtenu une victoire avec la reconnaissance de ce statut de candidat. Pour le reste, il y a tout de même un hiatus sérieux entre le rapport de la Commission, qui effectivement, comme vous le disiez, constate des progrès, et puis les rapports de toutes les organisations internationales. On pourrait citer le rapport de Transparency International sur la corruption, qui est accablant pour le Monténégro, le récent rapport de Reporters sans frontières, qui est accablant pour l'état de la liberté de la presse au Monténégro. Là, je dois vous avouer, je suis un petit peu surpris par le rapport de la Commission européenne.
Oui, parce qu'effectivement, la Commission, son avis est positif, et a transmis au Conseil, en tout cas, son avis positif. Et maintenant, c'est au Conseil, donc aux États membres, de décider de l'ouverture des négociations formelles. Quel est votre pronostic sur l'attitude du Conseil vis-à-vis du Monténégro ?
Écoutez, un pronostic, j'aurais du mal à le faire. Il faut quand même être bien conscient de ce qu'est le Monténégro. C'est le plus petit pays de la région, c'est 600 000 habitants. Donc, a priori, le Monténégro, ce n'est pas un problème économique majeur, ce n'est pas... et son intégration, mais somme toute, elle pourrait se faire demain. Par beaucoup d'aspects, le Monténégro est un pays où les institutions marchent mieux que dans certains États membres de l'Union européenne. Donc pourquoi ne pas l'intégrer demain ? Je ne vois vraiment aucune raison de retarder les choses. Par contre, on sait que les problèmes du Monténégro sont ceux de la monopolisation du pouvoir par un très petit groupe de personnes qui sont au pouvoir depuis la fin des années 1980 et du poids terrifiant de la dérive criminelle du crime organisé au Monténégro, en sachant que ces milieux du crime organisé sont totalement liés à ce petit cercle de gens qui dirigent le pays comme un fief féodal. Par rapport à cela, il y a des échéances. Par exemple, la Serbie a lancé depuis près d'un an un mandat d'arrêt contre plusieurs chefs du trafic de drogue, notamment M. Šarić, qui, selon les rapports américains, contrôlerait 1% du marché mondial de la cocaïne. 1%, ça paraît rien, mais 1% du marché mondial de la cocaïne, c'est énormément d'argent, énormément, beaucoup plus que le budget annuel du Monténégro. Ce monsieur Charles se cache au Monténégro. Il y a une quinzaine de jours, la Serbie et le Monténégro ont enfin signé une convention d'extradition mutuelle. Ceci étant, monsieur Charles n'est toujours pas arrêté. On sait très bien également que M. Šarić, n'est pas le vrai boss. Alors, qui est le vrai boss? Ça, il y a plusieurs hypothèses que tout le monde connaît bien. C'est ça, les vrais enjeux pour le Monténégro. Ensuite, quel sera le calcul politique des pays européens, et notamment de ceux qui sont, ou plutôt de celui qui est le plus proche par la géographie, mais pas seulement par la géographie, du Monténégro, à savoir l'Italie? Est-ce qu'il vaut mieux essayer de maîtriser ces phénomènes mafieux avec un Monténégro intégré ou avec un Monténégro extérieur à l'Union? C'est ça la seule vraie question.
On va essayer de terminer notre petit tour des Balkans avec la Bosnie-Herzégovine, l'un des plus mauvais élèves du groupe et qui a reçu un carton jaune de la part de la Commission.
J'ai toujours un petit peu de mal à accepter les formules que vous venez d'utiliser. C'est à peu près comme si, voilà, dans une classe d'école, vous faisiez courir les enfants de l'école.
Ouais, et puis on essaie de vulgariser malheureusement.
qui est amputé des deux jambes, qui a subi une histoire personnelle extrêmement lourde, et on lui dit toi tu cours pas vite.
Bon, ça, c'était un peu schématisé, désolé.
Bon. C'est un peu gênant quand même. En sachant surtout que la Bosnie-Herzégovine, effectivement, fait du surplace et va extrêmement mal. Mais elle fait du surplace parce qu'on l'a mise dans ce carcan qui est celui des accords de Dayton. Les accords de Dayton n'ont pas été, démocratiquement approuvés par les citoyens de Bosnie-Herzégovine. Les accords de Dayton étaient sûrement la moins mauvaise solution pour mettre fin à la guerre à l'automne 95, il y a 15 ans. Ensuite, ce qui tient lieu de constitution au pays, c'est toujours l'annexe constitutionnelle des accords de Dayton. Et ces accords de Dayton, pour mettre fin à la guerre, ont créé une machine infernale en donnant les clés de la voiture, les clés du pays, à ceux qui avaient plongé le pays dans la guerre, c'est-à-dire aux élites nationalistes des différents camps, avec la bénédiction des pays occidentaux. Encore une fois, si l'on se replace dans le contexte, Dayton était sûrement la moins mauvaise solution pour que les combats s'arrêtent. Et les combats sont arrêtés, ce qui est déjà très important. Pour le reste, en même temps que Dayton faisait s'arrêter les combats, il crée cette sorte de machine infernale bloquant la Bosnie, et surtout une machine infernale que personne ne peut arrêter, que personne ne peut réformer. C'est ça le drame de la Bosnie. Donc effectivement, la Bosnie va mal et elle continuera d'aller mal. Les dernières élections, le 3 octobre, ont montré qu'il n'y avait pas beaucoup d'espoir réel de changement à attendre. Je dirais que ces élections, si on les analyse un petit peu dans le détail, montrent à quel point le système est pervers. Les citoyens de Bosnie, notamment dans l'une des deux entités, la Fédération, ont voté principalement pour le Parti social-démocrate, qui se présente comme un parti antinationaliste, voulant justement réformer les accords de Dayton. Mais même si le Parti social-démocrate est en tête au niveau de la fédération et dans la plupart des cantons, on sait d'entrée de jeu qu'il ne pourra pas réformer le pays parce que Dayton prévoit une telle dilution des niveaux de pouvoir qu'il est impossible pour un seul parti, même s'il gagne les élections, de changer le système. Donc moi, ce qui m'étonne toujours, c'est comment les citoyens de Bosnie continuent à avoir la confiance dans la démocratie suffisante pour se rendre aux urnes. Je peux vous assurer que si j'étais citoyen de Bosnie, j'irais plus voter depuis bien longtemps.
Alors, vous nous dressez un tableau noir qu'on connaît un petit peu, mais est-ce qu'on peut dégager des motifs d'espoir pour la Bosnie?
Non, aujourd'hui, non, je vais être très clair, non.
Aucun.
Non, malheureusement. Les élections ont encore une fois confirmé que ce système est totalement bloqué. Donc dans le cas de la Bosnie-Herzégovine, excusez-moi la formule, mais la seule solution serait une révolution. C'est-à-dire serait un moment où les citoyens diraient « Non, on ne peut plus jouer avec ces institutions qui bloquent le pays dans un corset et qu'il est impossible de réformer ». C'est là où Dayton est une machine infernale. En même temps qu'il met le pays dans une position de non-fonctionnement, il n'y a pas le bouton off qui permettrait de sortir de ce blocage. Donc comment faire? Je ne vois réellement pas d'autre solution qu'une révolution.
Alors pour terminer, on a reçu des questions des internautes et des membres de Génération 112. Areski, une première question.
Alors tous les pays des Balkans ont obtenu une suppression des visas pour voyager dans l'Union européenne, sauf le Kosovo. Pensez-vous que le Kosovo pourra obtenir ce droit à moyen terme?
Très compliqué comme question, très compliqué. La décision de lundi, en l'occurrence, c'est de libéraliser le régime des visas pour l'Albanie et la Bosnie-Herzégovine, mais en même temps de réintroduire pour les 5 pays concernés, donc également pour la Serbie, le Monténégro et la Macédoine, des clauses restrictives. C'est-à-dire que si les pays concernés n'arrivent pas à mieux maîtriser leurs flux migratoires, cette libéralisation des visas pourra à tout moment être suspendue. Donc en gros, rien n'est acquis, à vous de voir comment les choses évoluent. Ce que l'on a constaté depuis un an, depuis la libéralisation des visas pour les ressortissants de Serbie, de Macédoine et du Monténégro, en décembre 2009, c'est effectivement une petite vague de demandeurs d'asile, émanant principalement de Macédoine et de Serbie, qui se sont dirigés principalement vers les Pays-Bas, la Belgique, les pays scandinaves et dans une moindre mesure l'Allemagne.
Alors une deuxième question qui nous a été posée sur Internet, c'est justement sur la Bosnie-Herzégovine. Vous rappelez les accords de Dayton qui ont divisé la Bosnie-Herzégovine en deux entités, et notamment une entité serbe. Alors la question c'est, est-ce qu'à votre avis, suivant l'exemple du Kosovo, les Serbes de Bosnie voudront à terme proclamer leur indépendance ?
Alors, par rapport à ça, l'éventuelle partition de la Bosnie-Herzégovine, il faut être très 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 prudent. Là encore, on est dans ce système extrêmement pervers qui prévaut en Bosnie, c'est que pourquoi est-ce que Milorad Dodik, le président aujourd'hui de la Republika Srpska, l'entité serbe de Bosnie, est-il aussi puissant ? Tout simplement parce qu'il a cet argument rhétorique fabuleux qui est la menace de la sécession. On sait que M. Dodik est un des dirigeants les plus corrompus de la région. On sait qu'il a transformé la Republika Srpska en véritable fief personnel où il contrôle tout, de l'économie aux médias, en passant par tout ce que vous voulez. Mais on ne dit rien à M. Dodik parce que dès qu'on lui fait une remarque en lui disant « Allez, Milorad, quand même, tu exagères un petit peu. Tu pourrais peut-être ne pas mettre ta cousine à la tête de cette entreprise. Tu pourrais peut-être laisser quand même 5 minutes de libre antenne sur les médias. » Aussitôt, il dit « Attention, si vous m'embêtez, je fais un référendum et je proclame l'indépendance. » Aussitôt, les Occidentaux s'excusent. « Ah, mon cher monsieur Dodik, vous nous avez mal compris. Voyons, nous ne vous critiquons pas du tout. Surtout, continuez comme ça pour que tout continue, pour que rien ne bouge. » Donc là encore, on est au cœur de cette perversion du système créé par Dayton, qui permet à ce, comment dire, Dodik, c'est un tigre de papier de province, c'est rien d'autre. C'est un gars qui s'est enrichi en faisant de la contrebande de cigarettes et de café à l'Aktachik, une bourgade à côté de Banja Luka. C'est quand même tout sauf un grand dirigeant. Mais ce type a su jouer sur les institutions d'une telle manière qu'il est aujourd'hui extrêmement puissant et que personne ne peut le remettre en cause parce qu'il a cet argument suprême qui est la menace de la partition. En sachant qu'en réalité, ce qui arrange Dodik, c'est le maintien du statu quo. Donc la partition, il faut en parler toujours pour ne jamais la faire. Du jour où il serait obligé de la faire, en réalité, il perdrait tout. Parce qu'une Republika Srpska indépendante, qu'est-ce que cela deviendrait ? Même une réunion avec la Serbie n'est pas du tout à l'ordre du jour et n'irait pas du tout dans le sens de ses intérêts, qui sont avant tout des intérêts de business, des intérêts d'argent. Donc dans ces conditions-là, non, la partition de la Republika Srpska n'est pas à l'ordre du jour. La seule chose qui soit à l'ordre du jour, malheureusement, c'est le maintien du statu quo.
Alors une toute dernière question. Jean Quatremer, sur cette antenne, il y a quelques mois, nous disait « L'Europe ne s'est jamais autant approfondie que quand elle s'est élargie ». Jean-Arnaud Derrins, partagez-vous cet optimisme ou au contraire êtes-vous plutôt pessimiste sur l'avenir, et notamment l'intégration des Balkans ?
La formule est très jolie et je suis, spontanément, sans tenter de l'approuver. Après, si l'on regarde la situation des Balkans, il faut, je crois, relativiser les choses, les mettre à leur juste niveau. L'ensemble des pays des Balkans occidentaux, c'est à peine plus de 20 millions de personnes. C'est donc autant d'habitants que la Roumanie et beaucoup moins que la Pologne. Ce qui veut dire qu'en termes de capacité d'absorption, on parle tout de même de pas grand-chose. L'intégration des Balkans, l'intégration immédiate, disons demain, comme ça, coûterait assurément beaucoup moins cher aux citoyens européens que le maintien du statu quo actuel, avec tout ce que cela veut dire de missions internationales, civiles ou militaires, qui sont de plus en plus des missions européennes. C'est le cas notamment au Kosovo. Donc voilà, les Balkans, c'est en réalité une bien petite affaire. De surcroît, il n'est juste pas envisageable d'imaginer que sur la carte de l'Europe, vous ayez toujours le maintien de cette tache blanche de ces Balkans entourés par les pays de l'Union européenne, mais qui n'en font toujours pas partie. Je dirais que l'intégration des pays des Balkans occidentaux est donc une évidence de bon sens. Est-ce que cette intégration permettra de redonner son sens au projet européen ? Là, je crois que ce serait peut-être un petit peu faire preuve d'un peu trop d'optimisme. Je pense en tout cas qu'en intégrant les pays des Balkans occidentaux, on réglerait facilement beaucoup de problèmes qui autrement seront sans cesse plus difficiles à résoudre.
Un grand merci à vous Jean-Arnaud Desreins d'avoir accepté de participer à cette émission. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour parler d'un thème tout à fait différent, le budget de l'Union européenne, une question qui agite le tout Bruxelles en ce moment. Vous pouvez d'ores et déjà nous adresser toutes vos questions sur notre site internet. Enfin, retrouvez et réécoutez cette émission en ligne sur le site de Génération 112, www.génération112.eu et sur le site de Radio Nantes, www.radionantes.eu. Merci et à très bientôt.
C'était Est-Ouest, Balle au Centre, le grand oral de Génération 112. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur euradionantes.eu.